Pour ce 14e pardon, de Radio Barque avec notre invité Nicolas Saint-Cluc, eh bien, beaucoup de sujets, puisque d'ailleurs vous avez un certain nombre de casquettes, Monsieur Saint-Cluc, mais on va commencer peut-être par ce que Michel avait évoqué dans un de ses sujets très récemment, et qui fait d'ailleurs que je vous remercie d'être venu rapidement pour vous exprimer sur ce sujet. Les derniers vœux. On est encore en janvier, c'est la grande époque des vœux. Jem Narbonne a présenté les siens. Et alors, ils ont été remarqués, en tout cas par Monsieur Santol, peut-être pas seulement, par tous les observateurs politiques de la vie narbonnaise, par le rôle, on va dire, prédominant ou prééminent que vous y avez joué. Alors quand on sait que M. Bascou, qui est ancien maire, ancien député, actuel président du Grand Narbonne, a déclaré récemment qu'il ne se représenterait pas aux élections, la conclusion immédiate, ça peut être que la question qu'on se pose, c'est qui partira pour l'EPS à la conquête de la mairie de Narbonne. Et ce sont les questions qu'on se pose, bien entendu. Or, dans ce monde politique souvent hypocrite et cachotier, vous avez au moins ce mérite, Monsieur Saint-Cluc, de jouer la franchise, et vous n'avez jamais caché vos ambitions politiques à ce niveau-là. Donc, la question maintenant, nous vous la posons clairement. Faut-il conclure de tout cela que pour les élections municipales en 2020, il y aura dans deux ans, donc, il y aura une liste, alors PS, de gauche, menée par M. Saint-Cluc.
Alors, il y aura une liste Jem Narbonne, et je suis effectivement candidat à la candidature. C'est-à-dire que j'ai fait un discours pour les vœux qui était clair, d'engagement. Je n'ai à aucun moment, par contre, annoncé que Jacques Bascou mettait fin ou n'avait plus d'ambition pour être à nouveau maire ou président de l'agglomération. Apparemment, il y a eu des fuites. Elles n'ont pas été organisées par moi. Ça, je puis vous l'assurer. Donc dans mon discours, il n'y a eu aucune allusion à ce sujet. Par contre, il est vrai que, et Michel a tout à fait raison par rapport au billet qu'il a fait, il y a eu une discussion entre élus. Et c'est vrai que Jacques Bascou avait indiqué qu'il voulait se concentrer pour les deux ans à venir sur les dossiers de l'agglomération qui sont très importants avec des enjeux économiques forts et qu'il renonçait, qu'il ne se présenterait pas à nouveau. À partir de là, effectivement, moi j'ai eu un discours assez engagé. Je l'ai d'ailleurs publié sur Facebook pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, que pour tout le monde puisse avoir accès à ce dossier où j'emploie quand même le terme « nous » hein, et pas « je ». Donc bon, c'est un engagement, mais c'est pas un acte de candidature tel qu'on pourrait le penser. Mais à partir du moment, effectivement, où les journalistes l'ont compris comme ça et que les gens aussi autour de moi l'ont compris comme ça et que c'est vrai, je pense que j'ai la capacité de réunir, d'aller voir les gens, de leur parler et surtout de gérer une ville avec, on va dire, plus d'ambition que ce qui se passe actuellement et avec une façon aussi de procéder plus ouverte et plus démocratique en faisant en sorte de consulter les gens avant de faire des projets qui, pour beaucoup, sont décriés par la population narbonnaise et par nos concitoyens, dont vous faites aussi partie. Je pense que je dois assumer mes responsabilités, prendre mes engagements, parce qu'effectivement, on est à deux ans de ces élections, deux ou trois ans, hein, on parle de 2021 aussi peut-être.
Et il semblerait que le gouvernement revienne sur son premier projet de les repousser.
Tout à fait.
Parce donc qu'il n'a pas intérêt.
Donc ça veut dire qu'il ne reste que deux ans.
C'est
voilà.
Ça, et ça va très vite. Hein.
Tout à fait. Tout à fait. Alors je voulais aussi quand même, parce que j'ai écouté monsieur Didier Mouly à votre dernière à son interview. Ça faisait d'ailleurs longtemps qu'il n'était pas venu à cette radio, me semble-t-il. Dorénavant, il va venir plus souvent. C'est ce que j'ai cru comprendre à la fin de son intervention. Donc ça montre bien qu'il est en campagne, mais moi aussi j'adresse mes voeux à la population narbonnaise et j'espère surtout que parce que j'ai des voeux moi aussi à formuler, c'est un peu les mêmes d'ailleurs que ceux de Michel Santo. Mes voeux ce serait surtout que monsieur le maire cesse de taper sans cesse sur l'agglomération comme il a fait jusqu'à présent, hein, donc ça j'espère que ça va être un voeu qui va se faire. J'espère aussi qu'il va revenir sur sa politique de stationnement qui est inflationniste et qui a pour objectif de financer sa salle multimodale, parce que ça aussi, il ne l'a pas dit, et qui met aujourd'hui en difficulté les restaurateurs, qui met en difficulté le milieu médical, qui met en difficulté les policiers de Narbonne, qui met en difficulté beaucoup, beaucoup de personnes. Et j'aimerais aussi, pour qu'il montre qu'effectivement il a changé de cap, et qu'il rénove le parvis du théâtre. Et ça, ça serait vraiment un acte fort d'engagement, de changement de cap de sa part. Voilà, parce que effectivement, je crois que ça, c'est très important. C'est par le symbole aussi qu'on peut démontrer qu'on a un peu changé son fusil d'épaule.
Oui, alors, monsieur Saint-Cluc, puisque vous avez écouté l'interview, vous avez entendu la réponse de monsieur Mouly, il n'a pas dit non, il n'a pas donné une réponse non plus très chiffrée ni précise.
Il n'a pas dit non, il a été sur un autre sujet qui est sur celui de l'aménagement du Muréna jusqu'au centre-ville, cette bande. Il n'a pas répondu à la question.
Précisément,
c'est terrible, parce que c'est comme dans les conseils municipaux. Alors, municipaux, vous indiquez d'ailleurs très souvent que c'est très conflictuel, qu'on est sur des postures. Pas du tout. Si vous reprenez bien ce que l'on indique à chaque fois, et d'ailleurs quand je discute moi avec des conseillers municipaux de la majorité, en off, beaucoup partagent le sens de mes observations. Pas forcément toujours la forme, mais le sens et le fond. Notamment sur la salle multimodale, notamment aussi lorsque j'étais intervenu sur les différences des indemnités entre les super-adjoints et les adjoints. Ça a été quand même un des premiers actes forts symboliquement qui faisait quand même que ça crée une drôle d'ambiance au sein d'un conseil municipal. Vous savez, quand on gère une ville, quand on gère un conseil municipal, il faut quand même faire en sorte que tout le monde participe. Aujourd'hui, on a aussi un conseil municipal qui est très déséquilibré, où on n'a que le maire qui parle et les autres conseillers municipaux qui prennent pas la parole. Donc ça démontre qu'il y a quand même une souffrance aujourd'hui par rapport à ces conseils municipaux. Il n'y a pas de réponses qui sont claires et précises aux questions que l'on pose. Et lorsque vous l'interrogez aussi, il vous amène sur un autre sujet. Alors c'est vrai que c'est très fort hein, au niveau de la façon de faire, puisque on oublie après la question qui est posée. Mais moi, je réponds aux questions qui sont posées. Voilà.
Alors à propos, parmi les arguments que vous reprochez à M. Mouly, il y a la construction de cette salle multimodale. Bon, vous avez entendu sa réponse, entre guillemets, si aujourd'hui on arrêtait, ça coûterait très cher, étant donné les engagements pris, à la population. Alors, je ne sais pas, admettons que vous vous retrouviez dans 2 ans, maire, monsieur Saint-Cluc, et que le projet soit encore en cours, est-ce que vous l'arrêteriez ?
Alors, c'est une très très bonne question.
Pour faire un deuxième aspirateur alors, encore plus important, effectivement, que l'aspirateur.
Je vais vous dire, là-dessus, si le projet se fait, et si on n'arrive pas à l'arrêter par les voies à la fois judiciaires ou administratives, c'est-à-dire la préfecture, le projet sera terminé. Ça veut dire qu'on aura un équipement qui coûtera entre 1 et 2 millions d'euros de fonctionnement par an. À partir de là, on sera en difficulté. Quel que soit le maire, quelle que soit la personne qui sera aux manettes de cette ville, on aura de très graves difficultés. En sachant en plus que l'État va maintenant contractualiser avec les communes de plus de 10 000 habitants qui sont en situation compliquée au niveau du fonctionnement. Il faut savoir, me semble-t-il, vous allez l'apprendre bientôt, que la ville de Narbonne va faire partie de cette liste. Et ça veut dire qu'il va falloir donc regarder précisément le fonctionnement et faire en sorte de réduire le fonctionnement et aussi les investissements. Comment va-t-on pouvoir faire si on fait cette salle multimodale ? C'est impossible. Et surtout, ça va empêcher de faire des équipements nécessaires pour cette ville par rapport à sa population. On parle aujourd'hui du problème du vieillissement de la population, effectivement. Donc il va falloir revoir certaines politiques au niveau des déplacements. Il va falloir revoir aussi au niveau de la désertification médicale, il y a à la fois des solutions qui sont de l'ordre des collectivités. Le département, d'ailleurs, prend ses responsabilités à ce sujet, mais aussi national. Parce que si nationalement, il n'y a pas une loi qui est faite pour faire en sorte que les médecins qui sortent de l'école soient placés dans toutes les zones où il va manquer des médecins pendant au moins 3 à 5 ans, nous ne réglerons pas le problème. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste des zones prioritaires. C'est partout en France qu'il y a des désertifications. Donc c'est un sujet qui est majeur. Et tous ces sujets-là, eh bien, il va falloir des moyens derrière. Et j'ai d'ailleurs, moi, compris une chose à l'intervention de M. Mouly, c'est qu'il a dit que cette salle n'était pas indispensable. Vous voyez, il a changé un peu son discours. Et il dit, si elle ne se fait pas, ça sera soit parce que judiciairement, soit par le biais de la préfecture. On dirait presque qu'il a finalement envie que cette salle ne se fasse pas à son détriment.
Un petit mot, Michel.
Oui, de toute façon, maintenant, la clé du dossier, elle est entre les mains du juge sur le fond, quoi, si je puis dire. Hein, de toute façon, et si le juge sur le fond dit, ben, le marché en fait, est légal, la salle se fera. Alors, c'est vrai que maintenant, Didier Moulis se rend bien compte qu'effectivement, c'est un problème qui est relativement important. Et il admet même, je ne sais pas si tu t'en souviens, Jean-Claude, que ben voilà, les Narbonnais étaient partagés. C'était 50-50 quasiment, quoi, hein, pour en fait, ou contre. Donc il est obligé de convenir aujourd'hui que ce n'était pas un dossier en fait, et un projet aussi important et aussi porteur que les Narbonnais en fait, le souhaitaient à ses dires. Donc voilà,
il faut attendre les résultats de ces actions judiciaires.
Tout à fait. En sachant que je vous informe quand même qu'il y a un pourvoi contre en Conseil d'État contre la décision aussi du référé. Donc Monsieur Ortiz a fait un pourvoi contre la décision pour aussi parce qu'il y a d'autres moyens qu'on peut soulever et c'est aussi important de voir si on peut pas obtenir cette suspension parce que on savait que le maire allait avoir ensuite ce discours c'est de vous dire que finalement ben il y a beaucoup de dépenses qui ont été faites et c'est vrai que au mois de juin lorsque le juge va se prononcer il y aura à peu près entre 1 et 1,5 million d'euros qui auront été dépensés par la ville de Narbonne.
Alors autre sujet actuel de mécontentement et de protestation et d'opposition, c'est le stationnement. Alors, vous savez forcément, Monsieur Sainte-Cluc, que c'est le résultat d'une loi nationale qui a changé la donne en quelque sorte. Bon, vous, si vous aviez été maire à ce moment-là, comment auriez-vous fait ?
Alors comment j'aurais fait ? J'aurais fait comme les villes qui ont décidé de prendre ce sujet à bras le corps, c'est-à-dire faire parce que justement il y avait la possibilité de faire en sorte que maintenant ce soit les villes qui prennent en charge le stationnement, alors qu'avant effectivement il y avait le système des amendes, c'est plus le cas aujourd'hui, ce sont des forfaits que l'on règle donc à la municipalité. Alors soit on le fait en régie, soit en DSP, en délégation de service public. Et les villes qui ont voulu dynamiser leur centre-ville de la strate de Narbonne ont décidé eh bien de faire en sorte de soit augmenter le nombre de zones bleues en centre-ville, soit de faire en sorte qu'il y ait une gratuité entre 1 heure ou 2 heures chaque jour pour tous les habitants sur l'hypercentre, pour faire en sorte de concurrencer justement les zones commerciales. Qu'est-ce qui a été choisi à Narbonne ? On vous enlève la gratuité entre midi et 2. Ça, c'est une erreur fondamentale. Beaucoup de gens à Narbonne viennent manger le midi en voiture. C'est pas seulement des Narbonnais, de toute l'agglomération. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, ce qu'on avait annoncé, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup moins de gens qui viennent en centre-ville et les restaurateurs commencent un peu à s'organiser pour qu'on revienne en arrière. Et ensuite, la gratuité de 17h à 19h, qui est donc imposée. Moi, je trouve que c'est une très très mauvaise solution. Il aurait fallu faire gratuité de 12h à 14h et 2h gratuites, ou 1h, à voir en fonction après, on peut le mettre à l'essai, tous les jours pour que les gens puissent faire des courses en centre-ville. Et là, on a à la fois, on évite effectivement les véhicules tampons qui restent toute la journée et qui aussi vont contre le dynamisme des commerces. Et on permet aux gens de faire leurs courses tranquillement. Alors qu'aujourd'hui, on a une demi-heure gratuite par jour. Une demi-heure seulement. Et en une demi-heure, vous ne pouvez pas profiter des commerces du centre-ville.
Donc, oui, Michel, un petit mot là-dessus.
Oui, une remarque quand même sur le entre midi et deux. Aucun commerçant n'est ouvert à Narbonne entre midi et deux heures.
À part les quelques restaurateurs de Narbonne.
Et en sachant aussi que les gens qui fréquentent les restaurants entre midi et deux, je ne fais pas la différence à Didier Moulis, mais ce sont des gens qui travaillent sur place à Narbonne principalement. Donc voilà pour entre midi et deux. De sorte que la plage pour les commerçants 17-19 heures, il ne m'étonnerait pas qu'effectivement ait été plébiscitée par les commerçants du centre-ville qui effectivement entre 17 et 19 heures, parce qu'ils quittent effectivement leur boutique à 19h et privilégier cette zone-là. Cela dit, de manière générale, quoi, c'est typiquement le genre de dossier qui pose problème. Quoi. Qui pose problème et je ne connais pas. Enfin, il y en a deux. Si le plan de circulation, on le connaît à Narbonne. Chaque fois qu'il y a eu un changement de municipalité, il y a eu un changement de plan de circulation. Je parie que au prochain coup, il y aura un changement des plages horaires, des stationnements, etc. C'est tellement des dossiers très compliqués parce que par définition, ils ne satisfont personne.
Alors, à propos de... Oui,
encore un mot. Le stationnement, c'est vrai que lorsque nous, lorsque Jacques Bascou avait été élu maire, il avait revu un peu le plan de déplacement qui avait été fait par, par M. Moynier, mais pas entièrement. C'est-à-dire qu'on avait laissé les voies de bus qui avaient été créées, bien sûr, voies dédiées, c'est ce qui était évident, et on n'avait pas remis en double sens l'ensemble des artères. Ce qui a été le cas aujourd'hui, voies de bus qui ont été supprimées, enfin, là, quand même, on est dans un illogisme total. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des déplacements, on doit aller sur les déplacements en commun et faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui prennent ces créneaux. D'ailleurs, au niveau de l'agglomération, on a augmenté la cadence des bus, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les bus sont dans le flux des véhicules normaux. Et du coup, beaucoup de retard. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même faire attention. C'est-à-dire qu'il faut regarder ce qui fonctionne et pas vouloir non plus faire table rase de ce qui a été fait. Mais il faut choisir la meilleure solution. C'est vraiment une analyse et pas se contenter d'effets d'annonce ou faire croire que c'est pour dynamiser le centre-ville quand on sait quand même que cette réforme du stationnement va rapporter beaucoup plus que ce que était le cas auparavant. Alors le maire a indiqué qu'il allait perdre 500 000 euros par an. C'est totalement faux. Peut-être qu'il prend en compte le fait qu'il y a l'achat la première année des eurodateurs, mais une fois cet achat effectué, cet investissement effectué, il va avoir beaucoup plus de recettes, et notamment parce que la fraude devient quasi impossible. Et c'est d'ailleurs ce qui a été indiqué sur le bulletin des maires de France, et ça a été aussi dans les débats de Perpignan lorsque ce stationnement a été mis en place, où ils attendent des recettes qui passent de 1,7 million à 3 millions d'euros.
Oui, juste alors encore
par contre, sur cette question-là, bon, il y a une chose évidente, quoi. Demi-heure de gratuité, en fait, pour permettre effectivement une meilleure circulation en centre-ville pour effectuer des achats et dynamiser le centre, c'est ridiculement faible. En demi-heure, on a le temps de se garer et de payer effectivement la place. On n'a pas le temps de faire autre chose, quoi. Donc, ça veut dire que le minimum est l'heure, pour ne pas dire 2 heures, pour effectivement faire circuler.
Nicolas Saint-Cluc, je voudrais terminer sur le fait que vous êtes également élu départemental, chargé alors des énergies.
Des énergies renouvelables.
Des énergies renouvelables. On a gardé cette appellation-là, parce que maintenant, entre les transitions énergétiques, on ne sait plus trop quels sont les termes les plus appropriés. Bon, donc, vous vous occupez alors de. Ça veut dire quoi exactement et quelle est la politique menée par le département dans ce domaine ?
Alors, le département a eu le label Territoire énergie positive pour la croissance verte. Donc, c'était un label d'État qui permettait d'avoir des fonds pour justement faire en sorte de développer des politiques de développement des énergies renouvelables, ou en tout cas d'économie en matière de dégagement de CO2 dans l'atmosphère. Donc, nous, ce que l'on a fait, on a été pris pour 2 choses. Pour d'abord, pour la création d'air multimodal, donc parce qu'il n'y avait pas d'air de multimodal de covoiturage sur le département, donc on en crée 9, dont la plus grosse qui va être à Narbonne de 145 places.
La sortie sud de l'autoroute.
Voilà, hein. Et vous avez vu maintenant, il y a un panneau d'ailleurs qui l'indique, parce que les travaux vont durer jusqu'au mois de juillet, donc c'est quand même important que les gens sachent effectivement de quoi il s'agit. Et ensuite, nous avons décidé également, puisqu'on savait que la région allait faire un nouveau schéma pour ce qui concerne les énergies renouvelables et le climat sur l'ensemble de la nouvelle région, on a fait en sorte de créer une étude des potentialités énergétiques du département, c'est-à-dire une étude de développement des énergies renouvelables sur l'ensemble du département de l'Aude, pour vraiment avoir un outil de planification de ces énergies. Parce qu'on s'aperçoit que, malheureusement, jusqu'à présent, ce sont les prestataires, enfin les fournisseurs, qui viennent voir des collectivités et qui font comme cela des projets qui forcément ne rapportent pas beaucoup au territoire, contrairement à ce que l'on peut penser. Par exemple, il faut savoir que une éolienne, eh bien, sur un territoire, elle rapporte 7% de ce qu'elle peut rapporter aux fournisseurs d'énergie.
Ah, et donc il y a 93% d'un côté, 7% de l'autre.
Voilà, tout à fait. Et sur l'ensemble des énergies renouvelables, on s'est aperçu notamment que il y a seulement 9% qui reste sur le territoire de ce qui est dégagé des énergies renouvelables. Et donc le but de ce diagnostic, c'était à la fois de déterminer ce qui se faisait, ce qui existe aujourd'hui, ce qu'on pouvait faire théoriquement dans toutes les énergies renouvelables, parce que malheureusement, on se focalise souvent sur l'éolien et le photovoltaïque, alors qu'il existe beaucoup d'autres énergies renouvelables. Et ensuite, on a créé des comités de transition énergétique, c'est-à-dire des collèges avec des élus, des partenaires, des citoyens, collèges citoyens aussi, paysages et patrimoine, qui constitue donc de plusieurs personnes donc dans divers domaines, qui se sont réunis, qui ont réfléchi sur le sujet et qui se sont aussi retrouvés entre eux pour vraiment faire une co-construction de ce diagnostic. Voilà. Et là, on est à la phase de la stratégie et des actions. Et la stratégie, il a été décidé par rapport aussi à ce qu'on a pu relever comme information, que si aujourd'hui on ne faisait rien, en 2030, on serait autonome en énergie renouvelable sur le département à hauteur de 35%. Aujourd'hui, c'est 22%, ce qui est assez faible finalement. Et si on avait un scénario volontariste avec des actions, c'est-à-dire faire en sorte avec la région, avec les départements, avec les collectivités, chaque EPCI, de développer certaines énergies renouvelables et avoir des politiques aussi ambitieuses, notamment en faisant en sorte que des actions soient faites dans le cadre des plans locaux d'urbanisme, dans le cadre du SCOT, avec des cahiers des charges qui prennent en charge le problème des énergies renouvelables, on pourrait arriver à 52%. Donc l'objectif, c'est de 52% d'énergie renouvelable d'ici 2030, en sachant que la région a pour objectif, elle, pour 2050, 100%. Donc c'est quand même demain.
Hein. Oui, enfin, 2050, c'est peut-être... En tout cas, c'est là-dessus qu'il va falloir conclure. Merci, Nicolas Sainte-Cluc, d'être venu à la fois nous parler, bien sûr, donc, de municipalités, d'agglomérations, et puis également de cette charge que vous avez encore pour plusieurs années, puisque vous êtes élu...
Jusqu'en 2021.
Jusqu'en 2021.
Tout à fait. Je vous remercie, en tout cas, pour votre invitation. Et j'espère que vous allez inviter, effectivement, Hélène Sandrani, aussi, pour parler du problème du vieillissement de la population et de la politique du département dans ce domaine.
Voilà, ça fait partie des projets, et parmi les prochains élus, les prochains invités, tout simplement, il y aura d'abord M. Codorniou, ensuite M. Bascou, M. Sier, le maire de Fleury, et puis prochainement, je l'espère, parmi les invités également, Mme Hélène Sandranier. Merci en tout cas de nous avoir suivis, et à la semaine prochaine.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.